Au sommaire d'ORLM, en mode confiné, découverte des nouveaux iPad Pro et MacBook Air. Coronavirus, quels outils collaboratifs pour télétravailler? Se dirige-t-on vers un risque de réduction de la bande passante? Comment Apple gère la crise? Un retour enfin sur l'amende record de 1,1 milliard d'euros infligée par l'autorité de la concurrence en France. Vous regardez, on refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. On refait le Mac dans la cave, on refait le Mac confiné, on ne pouvait pas vous laisser tomber dans ces circonstances exceptionnelles. On voulait être au rendez-vous comme chaque semaine maintenant depuis 10 ans. Restez chez vous, c'est le mot d'ordre. Protégez-vous, prenez soin de votre famille. On est dans la cave parce que c'est le seul endroit qu'on a trouvé dans la maison pour pouvoir être à l'abri, bien sûr, des vilains virus, mais surtout des enfants qui nous empêchent de travailler. Tous les parents me comprendront. Avec comme chroniqueur cette semaine, il y a beaucoup d'actualités. On est heureux de l'avoir avec nous. Il s'agit bien sûr de Cédric, un grand de la chaîne Info. Bonjour Cédric.
En total confinement volontaire, mais finalement on travaille bien en confinement. Hein. Il y a quand même des sollicitations en moins. Curieusement, tu as remarqué que les agences de presse ne passent moins de coups de fil en ce moment. Il faut dire que la vie est un peu compliquée pour tout le monde. Puis bizarrement, j'ai l'impression d'avoir une meilleure connexion Internet qu'au bureau. Finalement, je pense que je vais rester là.
Ouais, on est tous dans le même cas. Moi, je ne peux pas rester trop longtemps dans la casse, qu'il n'y a rien à manger. Autre chroniqueur, vous le voyez presque chaque semaine dans cette émission, il s'agit bien sûr de Stéphane Zibi de Unisix. Bonjour Stéphane.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Et travailler à la maison, tu as l'habitude, c'est ton métier avec Unisix, pardon, c'est ton métier.
Oui, c'est des formations diplômantes et certifiantes en ligne, bien évidemment. Et tout le monde va aller sur Netflix et sur OCS. Et si vous avez envie de faire un petit peu autre chose, c'est sûr que nos formations, on va vous réserver une petite surprise même pour la fin de l'émission. À ce sujet.
Restez jusqu'à la fin de cette émission. Dernier chroniqueur, vous en avez l'habitude de le voir quasiment chaque semaine dans Refait le Mac. Il s'agit bien sûr de notre ami Laurent Patanach. Bonjour Laurent.
Bonjour à tout le monde. Bonjour Olivier. Bonjour Refait le Mac.
Alors Laurent, tu es à Paris ou tu es en Corse?
Je suis rentré à Paris et je suis confiné.
Voilà, je crois que tu as, comme beaucoup, hein, tu as fait le bon choix plutôt que de partir en province et intoxiquer les gens qui sont en province, tout simplement. Je crois que c'est le bon choix de rester à Paris et de rester confiné si vous avez un petit peu d'espace pour respirer. Nous, comme vous le voyez, on s'est réfugié. Je me suis réfugié dans la cave. Breaking news, beaucoup d'annonces surprises malgré le confinement et les circonstances vraiment dramatiques et l'actualité dramatique du moment. Apple, à la surprise générale, a fait des annonces à quelques minutes avant le début de cette émission. Nous sommes mercredi au moment de l'enregistrement. Des nouveaux produits, notamment un nouvel iPad Pro et un nouveau MacBook Air équipé d'un nouveau clavier. C'était plutôt, Cédric, des annonces qu'on s'attendait à avoir à l'occasion d'une keynote qui devait normalement, du moins d'après la rumeur, arriver à la fin du mois de mars. Une keynote, bien sûr, qui n'a jamais eu lieu, qui n'a pas été annulée parce que c'est de la rumeur. Qu'est-ce que tu peux nous dire autour de cet iPad Pro, Cédric? Il semblerait tout simplement qu'il ait hérité des capteurs photo de l'iPhone 11. On peut résumer comme ça, Cédric.
Oui, c'est ce que j'en vois jusque-là. J'ai un gros doute sur le LiDAR. Il faut expliquer ce que c'est qu'un LiDAR. Oui, un LiDAR, c'est un LiDAR. Le L de LIDAR, ça veut dire laser. Un LIDAR, c'est un radar au laser. Or, y a-t-il vraiment un capteur au laser sur la face avant de cet iPad? Je sais pas, j'attends d'avoir des vrais détails techniques, parce que là, ce qu'on a en information nous décrit ce que ça fait plus que les specs techniques réels. Non, il a l'air chouette. C'est bien qu'il y ait tout à coup un trackpad sur le clavier. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tout à coup, on est en train d'inventer une sorte de nouveau MacBook.
Microsoft Surface, quoi.
En gros, je pense que tu vois, c'est grâce à l'iPad qu'ils vont rejoindre ce que Olivier appelle de ses voeux depuis des années, c'est-à-dire un MacBook tactile. Mais étant donné que Steve avait dit que non, il n'y aura pas de MacBook tactile, mais en arrivant en faisant le virage par l'iPad finalement et en organisant une convergence des systèmes finalement ça peut le faire.
Autre annonce Cédric, c'est l'arrivée d'un nouveau MacBook Air, une nouvelle génération après son introduction, notamment avec un nouveau clavier, un clavier qui abandonne les touches papillon pour des touches à ciseaux et une nouvelle couleur apparemment Stéphane, une couleur gold rose, je crois Stéphane, que tu aimes beaucoup hein.
Visiblement, elle est gold plutôt.
Elle est gold, bon.
Gold, mais non, mais ce qui est plutôt intéressant, ce qui m'a plutôt interpellé, c'est qu'on est, et là je regarde en même temps le site d'Apple, et Laurent, on en a parlé un petit peu avant l'émission, mais apparemment les prix ne sont pas si dingues que ça, ne sont pas très chers, parce que la configuration la plus haute, donc un Core i7, 1 Tera ou 2 Tera de disque dur, je ne sais plus, mais déjà 1 Tera, c'est déjà pas mal. Le 16 Go de mémoire, ben, on en est à peine à 2 000 € TTC, ce qui est quand même raisonnable.
Et peut-être le prix d'entrée, il est combien ? Tu l'as, le prix d'entrée ?
Pour le Core i5, c'était 1499 et l'autre, c'est 1199. Mais c'est quand même des tarifs qui sont intéressants et déjà qui, je pense, clôt le débat sur le MacBook et les 12 pouces.
Il n'y en aura plus, vous avez bien compris.
Voilà, et donc je pense que le MacBook Air qui était vraiment une des meilleures ventes ou la meilleure vente quand même des derniers ordinateurs portables d'Apple depuis quelques années, ben, ils sont pérennisés sur la durée et finalement ben, c'est pas plus mal.
Le ticket d'entrée, regarde, je me suis connecté en quasiment annoncé en direct lors de cette émission, 1199 € avec un processeur Core i3 et je vais pas dire de 8 Go de mémoire et un SSD de 256 Go, 1199 € en France, c'est au-dessus de la barre psychologique des 1000 euros et aux États-Unis c'est moins de 1000 $.
Pareil pour l'iPad, hein. Je pense que les annonces étaient prévues. Elles étaient prévues s'ils avaient fait leur événement. Événement annulé, ils n'avaient plus de problème de timing. Et à la limite, pourquoi pas occuper la scène pendant cette période où tu n'as rien d'autre à faire. Il semblerait qu'il se soit vendu pas mal d'iPad dans la dernière semaine, juste avant les annonces de confinement au niveau mondial hein, de beaucoup de pays, y compris aux États-Unis. Donc je ne suis pas étonné que ça arrive à ce moment-là. Pour les prix des iPads, et c'est effectivement la remarque qu'on faisait avec Stéphane juste avant l'émission, si tu prends un iPad grande taille, donc 12.9, 256 Go, qui est la deuxième taille avec cellulaire, tu es à 1249 $ et de mémoire, le mien que j'ai acheté en dollars, je l'avais acheté à San Francisco, pour la même config, j'étais à 1500 ou 1600 $. Donc tu vois, on est quand même à 400 $ à peu près pour l'équivalent, 400-500 $ de moins. Donc il y a vraiment un gros écart.
Oui, en clair, tu veux dire que l'effort tarifaire, Cédric, l'effort qui avait été accordé à l'arrivée du MacBook Pro 16 pouces se confirme pour l'iPad et pour le MacBook Air. Il y a une concurrence qui s'installe et on ne peut pas faire n'importe quoi, Cédric.
Ça explique aussi la communication. Hein. Tu vas sur la homepage d'Apple et là, on te dit « Your new computer is not a computer ». C'est-à-dire qu'on te le vend vraiment comme une machine de productivité personnelle. Bah, c'est pour ça qu'il y a le mot « pro » dedans. Mais c'est vrai que tout à coup, chez eux, ça commence du coup à 749 ou 799 $. Ce qui, même pour l'iPad Pro existant, serait déjà un très, très bon prix. Parce que c'est vrai que c'est une super, super machine. Alors par contre, je vois que malheureusement, le Magic Keyboard qui vient avec, celui qui a le trackpad, lui, il faudra attendre le mois de mai. Mais bon, soit.
Alors le LiDAR, ça peut servir à quoi ? On pense à la réalité augmentée, Cédric ?
Oui, en fait, c'est des choses qu'on avait vues depuis quelques années déjà. Moi, je me souviens des expérimentations chez Google. Je ne me souviens plus comment ça s'appelait le système, mais ça y est, c'est des choses qu'on a vues arriver sur les derniers pixels, par exemple. Ça permet de faire pas mal de choses. On est dans une sorte de projection de scanner 3D de ton environnement. Les choses qui te permettent, par exemple, de faire dans de très belles conditions... tu vois, de la réalité augmentée pour voir où va aller le nouveau canapé ou le nouveau buffet dans le salon. Et puis plein d'autres choses, des jeux et du reste. Mais c'est sur le mot LiDAR que je garde un doute. Ah, vas-y. Oui.
Alors effectivement, hein, donc la technologie LiDAR, le L était beaucoup utilisé pour le laser. Et en fait, il y a une page d'explication sur le site Apple. Hein, donc on le fait en direct, c'est ça qui est marrant.
Je l'ai, même. Donc,
Light Detection and Ranging. Donc en fait, il joue sur la lumière plutôt que sur l'effet laser et du coup il joue
alors
sur la capacité.
D'accord, parce qu'en fait, de fait, les deux sont possibles en termes de sémantique. Il y en a chez qui ça veut dire laser detection and ranging et l'autre light. D'accord. Donc c'est pas un lidar au sens du lidar que tu vois sur certaines voitures autonomes, etc. Même si on en revient parce que finalement c'est un peu ça sert plus à grand chose maintenant vu la puissance des caméras et des algos qu'il y a derrière. D'accord. Ok. Donc ok, il n'y a pas un laser tournant sur la face de l'iPad. Nous voilà rassurés. Oui, ça va permettre de faire justement de la réalité augmentée efficace, en fait.
Ouais, exactement. Ce que je voulais dire, c'est pour répondre à la question d'Olivier, sur la page immédiatement après, ce qui est enchaîné, c'est réalité augmentée.
Je pense qu'on en saura un petit peu plus lors de la future conférence des développeurs qui aura lieu en juin ligne. Prochain. Effectivement, en ligne, Cédric. Oui, on aura l'occasion, parce que c'est vraiment, ça vient de tomber, hein. On suit ça en direct. On aura l'occasion d'y revenir plus en détail dès la semaine prochaine pour tout vous dire sur l'iPad Pro, sur ce MacBook Air. On ne sait pas encore si on pourra vraiment le tester, hein. Évidemment, en ce moment, c'est compliqué, hein, et on ne sait pas si Apple pourra nous fournir, mais on aura l'occasion d'y revenir. Il faut quand même noter, on aura aussi l'occasion d'en parler en... la semaine prochaine, qu'il semblerait qu'Apple en ait aussi profité pour changer quelques prix à droite à gauche. On pense aussi au prix du Mac Pro. Il semblerait que le prix du Mac Pro est augmenté. Il faut vérifier ça. On y reviendra en détail. On est un peu pris par le temps. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Surtout qu'il y a d'autres fenêtres de tir qui sont attendues. Notamment, c'est un peu une surprise, hein, l'arrivée de ce MacBook Air. On attendait plutôt l'arrivée d'un MacBook Pro 14 pouces équipé... également d'un clavier ciseaux. C'est plutôt un MacBook Air qui est arrivé. Le MacBook Pro 14 pouces devait remplacer le MacBook Pro 13 pouces, un peu comme ce vieux modèle 2015 que j'ai devant moi, et équipé du même clavier, hein, d'un clavier ciseaux et plus d'un clavier papillon. Il est heureux qu'Apple ait enfin compris et la nécessité d'abandonner ce clavier papillon au profit d'un clavier ciseaux. Et qu'il le généralise à la sur toute sa gamme. Allez, on
j'ai
en
une petite info, Olivier.
Oui, Laurent.
Juste le clavier donc, qui n'arrive qu'en mai a une petite spécificité assez originale.
Vas-y.
Dans le pli, à la pliure, il a une prise USB-C pour recharger l'iPad.
D'accord. Comme à l'ordinateur, en fait. Tu vas pouvoir à la fois recharger. Il y a toujours le smart connecteur, Laurent ?
J'imagine, hein, puisque ce que, dit, ce que dit. Ouais, ce que dit Apple, c'est justement, alors je te dis, hop, c'est qui charge l'iPad Pro aussi.
Voilà, encore une fois, on n'est pas prêt d'avoir un produit briefing, mais on y reviendra. On va s'en mettre patience. Il y a plus grave, croyez-moi, dans la vie, vous êtes nombreux en tout cas à nous poser pas mal de questions sur les réseaux sociaux, bien que vous soyez geek et que vous utilisiez des outils de collaboratifs depuis très longtemps maintenant, mais on va essayer quand même de faire un tour d'horizon avec nos différents chroniqueurs pour vous aider justement à y voir plus clair quels sont les outils de collaboratifs qu'on utilise. C'est le thème de ce prochain chapitre. Quel outil collaboratif faut-il utiliser en ces temps de confinement ? Allez, on commence avec Stéphane, puisqu'il est devant moi sur le Skype. Allez Stéphane, qu'est-ce que tu utilises comme outil collaboratif, que ce soit pour la visioconférence ou encore du messaging ? Est-ce que tu es plutôt Slack ? Est-ce que tu es plutôt Teams de Microsoft ? Allez, quel outil tu utilises au quotidien ? Peut-être même que tu utilises iMessage, je ne sais pas.
iMessage, non. Non, ça c'est sûr. Même si FaceTime fois 20 personnes, c'est encore, ça doit être intéressant. Donc hier ou ces dernières heures, on a tous cherché la meilleure solution pour parce qu'elles ont toutes été très très sollicitées. Alors donc Teams a planté quasiment immédiatement et donc n'a pas tenu la charge au niveau monde.
Dès lundi.
Zoom tient un petit peu mieux la charge, il faut le reconnaître. C'est celle que j'utilise en permanence de mon côté.
Alors Zoom, c'est plutôt la vidéoconférence, hein, c'est ça ?
Vidéoconférence, avec tous les avantages de la vidéoconférence, et surtout qu'on puisse faire aussi des webinars et faire de la classe virtuelle, ce qui pour nous est très important, comme tu peux l'imaginer, quand on fait des formations. Il y a aussi dans notre panel, qui est toujours un truc important et qui est utile, WhatsApp, qui fonctionne plutôt bien.
Ça y est, on a enfin créé un groupe, on refait le Mac cette semaine.
Voilà, donc c'est-à-dire qu'en gros, on peut commencer à le faire, mais c'est vrai que Slack est utilisé en permanence également, même pour des petits coups de fil comme ça, c'est parfaitement utile. Bref, la seule chose sur laquelle on s'inquiète et on pourra s'inquiéter dans les jours qui viennent, parce qu'en gros, tu as les télétravailleurs d'un côté et tu as ceux qui ne télétravaillent pas, de l'autre côté, ben, tu as la bande passante, et ça...
Alors Cédric, de ton côté, quel outil collaboratif tu utilises au quotidien, à moins que tu aies fait le choix d'utiliser des outils maison propres à TF1 ou encore LCI ? Cédric ?
Non, pas vraiment. Il y a plein de choses. Hein. Il y a encore du Link, il y a du Teams, il y a aussi pas mal de boucles WhatsApp, de choses comme ça, parce qu'en plus on parle non seulement avec des gens à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, certains prestataires, etc. Donc, c'est un peu... chacun a un peu ses outils. Moi, j'ai la chance probablement d'avoir des comptes un peu partout, donc le problème ne se pose pas vraiment. Là, pour te parler, c'est Skype, mais bon, je suis sûr qu'on trouvera mieux. Après, j'ai un peu de Slack, j'ai un peu... Enfin, voilà. C'est vrai que ça pose un souci, parce qu'il y a des fois, tu te dis, attends, alors lui, comment est-ce que je lui parle d'ordinaire? Et tu refinis toujours, tu vois, par un iMessage ou un WhatsApp. Ça a un côté, c'est intéressant parce que je pense qu'on sortira de cette crise, parce qu'on sortira de cette crise, on en sortira à la fois un peu germophobe, et puis alors là tout à coup tous rompus au télétravail d'une manière ou d'une autre, en découvrant à la fois les attraits et puis certains inconvénients, soit immédiats, soit sur le long terme, parce qu'il y a des gens qui vont finir par se trouver un peu seuls chez eux. Donc c'est intéressant, je pense que tu vas voir fleurir plein de bouquins sur le télétravail réussi en 10 leçons, tu vois. Mais c'est amusant, c'est intéressant, c'est quand vous êtes dans des groupes de travail, la chose qu'on n'arrive pas à recréer en virtuel quand on est seul devant son laptop, c'est, tu vois, le côté, tu lèves la tête de ton bureau en disant, hey, quelqu'un a vu ça. Enfin, bon, voilà, ça, c'est pas possible. Donc, ça peut se recréer, soit par. Alors, il y a des gens qui font house party aussi, ou du Zoom, où là, tout à coup, tu n'es plus du tout limité en nombre de participants. Le problème, c'est qu'à un moment, tu as tellement de fenêtres ouvertes et tout à coup plein de sollicitations que tu finis par en refermer pour essayer de te concentrer sur ton travail.
Voilà. Oui, c'est vrai que tu as raison, c'est vrai que c'est plus une question d'organisation. Ceux qui découvrent le télétravail, ce qui n'est pas forcément mon cas, découvrent que en fait, ça demande une rigueur, une organisation, ne fût-ce que pouvoir gérer la vie de famille et les enfants. Laurent, de ton côté, qu'est-ce que tu utilises au quotidien et comment tu jongles d'un outil à l'autre avec les enfants, Laurent?
Alors, bon, déjà, moi, j'ai déjà fait du télétravail pendant quasiment 3 ans de ma vie par le passé. Donc, j'ai déjà été contraint, enfin, tu vois, à cette chose-là. Ce qui est très différent là, c'est pas tant le télétravail, c'est plutôt le confinement. C'est-à-dire qu'à la limite, moi, ça m'arrive de temps en temps de prendre une matinée, de travailler à la maison au calme, parce que j'ai besoin de me concentrer sans interruption au bureau. Là, la difficulté, c'est qu'à la fin de la journée, quand je faisais du télétravail pour mon boulot, j'aimais sortir le soir, prendre l'air. Là, je pense que dans pas longtemps, je vais quand même aller courir le matin, certainement très tôt, juste histoire pour la santé mentale. Ça, c'est la difficulté. Côté outils, le seul que j'utilise pas, à part aujourd'hui, c'est Skype. Sinon, pour tout ce qui est messagerie, j'ai beaucoup de Slack, Teams. Et moi, j'ai de l'iMessage. J'ai quelques discussions qui se tiennent quand même dans iMessage, c'est assez marrant. Et WhatsApp pour tout ce qui est texte. Et pour tout ce qui est vidéo, je fais... En fait, ça dépend. Il m'arrive de commencer sur... ce matin, par exemple, j'ai testé WhatsApp, ça ne marchait pas. J'ai testé Teams, ça ne marchait pas. Et finalement, on a fini en FaceTime. Ouais. Et donc, du coup, ça dépend un peu de l'encombrement des réseaux là où les personnes sont.
Oui, effectivement, ce qui est un peu compliqué, c'est effectivement quand on a un large groupe d'amis ou de collègues, il faut savoir zapper, disposer d'un large éventail d'outils collaboratifs, et c'est parfois un petit peu compliqué, un coup en iMessage, un coup en WhatsApp. Il faut jongler d'une application à l'autre, et puis la famille, des gens sur iPhone, donc c'est du iMessage. Donc ça, en clair, le télétravail, c'est une question, surtout une question d'organisation, plus qu'une question d'outils. Alors bien sûr, il faut quand même avoir la chance d'utiliser une bande passante. On va voir si elle va être limitée, on en parlera en fin d'émission. Mais en attendant de revenir plus en détail sur l'actualité autour d'Apple et du coronavirus, je vous propose qu'on reste sur le thématique d'Apple, les dernières rumeurs autour d'Apple, et c'est le busomètre. Le busomètre, les rumeurs et les infos qui ont le plus buzzé autour de la planète Apple et du site Mac Forever. Alors, qu'est-ce que nous a réservé cette semaine notre ami Didier Policani, qui ne pouvait pas être avec nous? Non pas qu'il soit confiné, car il n'y a pas de confinement pour le moment en Suisse, du moment où on enregistre, et à Lausanne, mais il devait s'occuper de ses enfants, car il n'y a plus d'école déjà à Lausanne, donc il est à fond en ce moment, croyez-moi. Qu'est-ce qu'il nous a mis en tête? Je regarde sur mon iPhone. Justement, un iPhone 9 Plus, c'est la première rumeur. On savait que l'une des nouveautés qu'on attendait lors de cette keynote qui devait arriver normalement au mois de mars, c'est la présentation d'un iPhone 9. Un iPhone 9, c'est quoi? C'est un iPhone 8 dont on a troqué les composants pour ceux d'un iPhone 11. Eh bien, il y aurait dans certaines builds d'iOS des des traces comme quoi une version plus de cet iPhone 9, donc une version élargie avec un écran plus grand, King Size qui serait également au programme, c'est assez logique, donc un 9 et un 9 Plus, un peu sur le même positionnement que autrefois l'iPhone. Et ce, la difficulté, j'imagine, Cédric, pour Apple, c'est de lancer un produit au moment où, a priori, les gens sont confinés. Est-ce que c'est vraiment enfin, c'est pas forcément évident pour lancer un produit, non ?
Enfin, même si je pense que la chaîne d'approvisionnement, là, en aval de la fabrication, hein, je veux dire, doit souffrir un petit peu. Quand tu vois que, à quel point même Amazon a du mal à livrer tout ça, c'est... Voilà. Mais on ne va pas se plaindre. C'est amusant parce que ça remet en perspective, tu vois, nos problèmes d'hommes blancs, c'est-à-dire, oh là là, j'aimerais bien avoir mon MacBook demain matin. Ouais, bah non, t'attendras la semaine prochaine. Souviens-toi avant, quand tu commandais aux 3 Suisses, voilà.
Voilà. Mais je pense que l'annonce de l'iPad aujourd'hui est liée à ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu la fin du mois pour le faire, parce qu'aujourd'hui, c'est le bon moment de se commander une nouvelle machine pour bosser de la maison, quoi, en mode confiné.
Donc c'est de l'opportunisme, tu penses, Laurent ? Très bien. Alors, deuxième rumeur que nous envoyez par SMS, Didier, qu'on embrasse encore une fois. Une WWC 2020 100% en ligne, on ne sait pas encore quand, en revanche. Voilà, c'est une annonce qui a été faite dès la semaine dernière par Apple, en plus de la fermeture des Apple Store. Donc il n'y aura pas de conférence physique avec les développeurs. Apple n'a pas choisi d'annuler complètement, notamment aux autres. On pense notamment à Google et je crois à Microsoft, je crois. Hein, ils ont annulé. Hein. Mais on n'a pas la date encore, je crois.
Oui, Laurent. Microsoft ouais. l'a fait en ligne.
Hein. Il l'a fait en ligne. Hein.
Ouais, je crois.
Oui,
ouais,
puis,
je crois.
Oui, oui.
Et de toi à moi, c'est peut-être un coup de génie de la part d'Apple de le maintenir et de découvrir que finalement, ils vont avoir une audience beaucoup plus grande. Parce que ouais. Du coup, les gens suivront en live les trucs. Donc, c'est pas dit que ce soit un mauvais coup.
J'espère qu'ils suivront en live sur le live dont refait le Mac. Hein. D'ici là, j'espère qu'on aura retrouvé notre studio. Troisième rumeur, une Magic Mouse qui s'adapte à la forme de la main. Voilà, c'est un brevet qui est passé sur les sites Apple qui ont beaucoup buzzé autour de ça, notamment chez Mac Forever. Voilà, une mise à jour de la Magic Mouse qui n'a pas évolué depuis longtemps, si ce n'est le petit connecteur Lightning au dos hein, qui était assez pas très pratique pour la recharger. On va voir s'ils vont la réserver pour la WWDC. Et enfin, dernière rumeur. Et on va voir si au moment où on réalise cette émission, ou la diffusion, pardon, ce produit sera disponible. Les Power Beats 4, la dernière version de la filiale d'Apple Beats, sera disponible donc sur l'Apple Store. Ça vaudra autour des 140€. Voilà pour les rumeurs autour de la planète Apple. On revient autour de l'actualité d'Apple avec le coronavirus. Alors bien sûr, on ne pouvait pas éviter le sujet du coronavirus cette semaine. On l'a déjà dit dans les épisodes précédents, Apple était en première ligne. Où en est-on cette semaine ? Apple a été... Alors, on a dit, ils ont annulé la WWDC, la keynote a été également annulée, on va voir s'il y aura d'autres annonces produites d'ici là. Mais une des premières annonces qui a été faite la semaine dernière, avant même l'annonce de la fermeture généralisée des magasins en France, Apple a décidé au niveau mondial de fermer l'ensemble de ses magasins, de ses Apple Store. Cédric.
Niveau mondial, c'est même le premier. C'est-à-dire ouais. qu'évidemment, ils avaient fermé les magasins en Chine au début de la crise, mais ils les ont même fermés dans des pays... rares sont les pays pas touchés maintenant, il faut dire. Mais même dans des pays moins touchés que nous ou que nos voisins italiens, espagnols et anglais, et aux États-Unis, bien sûr. Mais donc oui, ça a un côté radical, mais en tout cas, c'est un vrai geste... Qui pour le coup. Alors c'est amusant parce que ça s'est accompagné d'un don de 15 millions de dollars pour aider, je ne sais pas qui exactement, mais bon, c'est bien, mais enfin je veux dire, par rapport à ce que ça leur coûte de fermer combien 510 Apple Store dans le monde, moins ceux de la Chine dont l'essentiel a rouvert, c'est une goutte d'eau, je ne sais pas pourquoi ils ont annoncé ça, le geste suffisait à lui-même, mais il faut voir d'ailleurs combien de temps ils vont les garder fermés, mais enfin je pense que de toute façon, dans tous les pays confinés, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de les laisser ouverts, vu que ce n'est même pas possible.
Oui, Cédric, sur le site, à l'origine, ils annonçaient une réouverture pour le 28 mars, et puis sur le site US, cette référence de réouverture des Apple Store a disparu, donc c'est une fermeture jusqu'à nouvel ordre, donc on verra, on va suivre ça bien sûr, et et c'est un peu le cadet de nos soucis par les temps qui courent. Info quand même intéressante, si vous avez un souci d'ordinateur ou de téléphone et que vous avez besoin de le faire réparer ou d'en changer relativement rapidement, sachez que les réparateurs de produits informatiques et électroniques font partie des commerces de première nécessité désignés par le gouvernement, et que donc vous avez à votre disposition donc une liste dans votre région de réparateurs qui se tiennent prêts à venir réparer et vous permettre de continuer à travailler ou à vous divertir. Tu le disais, Cédric, Apple a annoncé la fermeture mondiale de ses magasins et en même temps quasiment a décidé de rouvrir ses 42, c'est sa boutique qui était présente en Chine, hein. C'est un curieux clin d'œil du destin, même si les ouvertures se font progressivement et que les plages horaires sont encore assez limitées. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu comme info concernant une des inquiétudes majeures pour l'industrie de la tech, c'est-à-dire l'approvisionnement? On a fait on refait la tech. À ce sujet, je vous invite à aller voir cette nouvelle émission réalisée par l'équipe On refait le Mac. Vous allez notamment retrouver Cédric dans cette émission. Qu'est-ce que vous avez attendu sur le réapprovisionnement? Il semblerait que les usines réouvrent. Cédric, notamment, on a eu des propos très rassurants du patron de Foxconn, qui est l'un des principaux fournisseurs et assembleurs des produits d'Apple en Chine.
Oh oui, tout à fait. Lui explique que ça y est, il a repris le rythme de ses productions à peu près normal. De toute façon, tout à coup, forcément, ça crée un tassement de la demande. Et puis ça arrive. Alors ça arrive à un moment, mais ça on le saura plus tard, évidemment, parce qu'il y a quand même une annonce qu'on attend, qui est celle d'un éventuel nouvel iPhone. Alors on l'appelle comme on veut, iPhone 9, iPhone SE2, enfin etc. Enfin un iPhone d'entrée de gamme. Donc normalement on serait en plein dans la production de cet iPhone-là. Il faudra voir à quel point la crise a mis un à-coup dans la production. Je pense plus que ce soit vraiment un souci, parce que du côté des fabricants de composants également, il y a plein de choses qui étaient à Taïwan et qui sont revenus sur les CPU normalement, mais qui d'ailleurs avaient été très peu stoppés, parce que Taïwan s'en sort vraiment étonnamment bien. Il y avait des choses en Corée et ailleurs, mais je pense que voilà, dans l'ensemble, ils ont remis le train sur les rails. Et puis, si Apple n'arrive pas à remettre une chaîne d'approvisionnement en marche, c'est que personne d'autre y arrivera dans l'ensemble.
C'est une question que je vous avais posée la semaine dernière dans Refait la Tech, mais comme ce n'est pas la même équipe, hormis Cédric, mais il était absent, donc j'en profite pour lui poser la question cette semaine, peut-être même à Stéphane. On sait que le coronavirus a fait prendre conscience à beaucoup d'acteurs des travers particuliers de la mondialisation. Est-ce que vous pensez que, justement, ce coronavirus pourrait apporter, j'espère, à terme un bienfait de ce côté-là et leur faire prendre conscience que la mondialisation à tout craint a ses limites et qu'il serait nécessaire de régionaliser la production? Stéphane.
Ben, pas seulement la tech, hein, les médicaments déjà. On s'est aperçu que déjà Sanofi ne pouvait pas être en capacité de fabriquer du Doliprane, ce qui est quand même un peu dommage vu la saison. C'est ça. Et en Inde, voilà, exactement. Et donc, c'est quand même un peu particulier, mais c'est tous les acteurs, d'une façon générale. Et je pense que quand on a des soucis ou des périodes comme on vit actuellement, bah, il est toujours nécessaire de garder un peu de diversité, on va appeler ça comme ça, parce que j'ai pas envie que un autre mot soit utilisé, mais de diversité. Parce que je pense que le mot souveraineté a été malheureusement utilisé par d'autres gens à mauvais escient, mais voilà, une diversité donc de possibilités pour qu'on obtienne le même résultat à la fin. Voilà, et que ce soit pour la tech ou pour tous les autres produits dont certains sont devenus essentiels à notre quotidien, dont nos téléphones.
Laurent, de ton côté, ton opinion là-dessus?
Moi, je pense que rien ne va changer.
Rien n'a changé.
En 2000...
Comme après la crise financière, les mauvais réflexes reviennent. Hein.
En 2009, je vendais des solutions de réseaux sociaux professionnels à des grandes entreprises. Je me souviens, on avait Orange comme client et c'était panique à bord. Il fallait que les gens travaillent de chez eux et on leur fournissait des clés 3G, 4G, je ne sais plus c'était quoi la norme à l'époque, pour qu'ils travaillent de chez eux. Aujourd'hui, tu te rends compte qu'on panique à l'idée de devoir travailler en télétravail. Alors qu'en fait, au XXIe siècle, tout le monde devrait être quasiment apte, hors industrie, je parle de toute société de service, hein, dans le tertiaire, tout le monde devrait être capable de bouger en mobilité n'importe où dans le monde. Et tu te rends compte que les réseaux ne suivent pas, je vois mon image à l'écran, je vois que c'est saturé alors que je suis au cœur de Paris avec un tuyau gros comme ça et que ça ne passe pas. Tu vois, tu te rends compte que les systèmes ne suivent pas, donc c'est un cycle. On va sortir, on sera content, on oubliera, et on sera comme en 1918, plus jamais de guerre, et puis en 1939, on aura une autre guerre, quoi, donc.
Cédric, ton opinion également, comme tu n'étais pas avec nous la semaine dernière, ton opinion ?
C'est tellement compliqué. C'est-à-dire que tout ce qui a été investi dans les chaînes de production en Chine, c'est-à-dire que c'est pas juste dire tiens, je vais ouvrir une usine d'assemblage d'iPhone en Allemagne ou aux Pays-Bas. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est tout l'écosystème de tes fournisseurs de composants. Il donnait un exemple qui était celui justement de la société qui fait plus de 100 milliards par an. On devrait quand même son nom, je devrais l'avoir en tête, qui est à Taïwan et qui produit les puces A13, etc.
TSMC, je ne sais plus.
Ça me reviendra. Mais par exemple, quand il y a un problème sur la chaîne d'assemblage qui se trouve pas à Guangzhou, mais à iPhone City, là au milieu de la Chine, eux, les types, ils sautent dans un... Non, pas à Shenzhen, non. Ils sautent dans un avion, une heure et demie après, ils sont là. Enfin, tu vois, en gros, le fait de devoir attendre, alors évidemment, tu peux leur faire prendre des avions, enfin bref, tout à coup, tu rajoutes de la difficulté dans l'assemblage, et surtout si tu voulais vraiment régionaliser. C'est-à-dire que tu peux dire, je me passe de la Chine, donc je vais mettre ma grande usine mondiale, j'en sais rien, dans l'Oklahoma, si tu as envie, tu vois, mais ça te pose plus de problèmes que ça n'en résout, parce que le problème, c'est que tout le reste de la chaîne est déjà là, et tu ne vas pas tout déplacer. Faut pas, d'autant que, qui peut mobiliser des centaines de milliers de personnes sur des lignes d'assemblage, enfin, voilà, c'est pas si simple que ça. Après, c'est vrai que Apple a énormément investi dans une sorte d'hyperdépendance avec la Chine, ce sera très difficile d'en sortir. Il faudrait qu'il y ait des trucs, c'est difficile à dire, mais plus grave encore pour que ça se fasse.
TSMC, le fabricant.
Voilà, TSMC, je ne sais plus. Mais bref, merci Laurent. Je propose qu'on revienne sur l'actualité du coronavirus, mais on parlera des risques de réduction de bande passante de la part des opérateurs en fin d'émission. On revient sur une actu forte, une actu chaude qui vient également de tomber il y a quelques jours autour de la planète Apple et notamment en France, c'est l'amende record 1,1 milliard d'euros à verser par Apple, même si Apple a déjà fait appel. C'est le prochain chapitre. 1,1 milliard d'euros, c'est la somme record et l'amende record infligée par l'autorité de régulation de la concurrence. Je crois que c'est la plus forte amende jamais prononcée par l'autorité de régulation de la concurrence en France. Et là, ça tombe sur Apple. Apple a déjà d'ailleurs annoncé vouloir faire appel de cette sanction. Rappel des faits, le géant américain a été condamné à une amende record pour des pratiques anticoncurrentielles vis-à-vis de certains revendeurs, notamment les revendeurs historiques. On pense à un en particulier, malheureusement, qui a disparu depuis, qui est à l'origine de cette plainte auprès de l'autorité de la régulation de la concurrence. Il s'agit bien sûr d'Hibiscus. Apple se serait entendu avec certains distributeurs pour essayer de réguler les prix plutôt à la hausse et empêcher une guerre des prix et que les revendeurs, les APR, les APOM premium reseller puissent casser les prix, comme c'était pendant longtemps le cas dans les années 90 et au début des années 2000. Hibiscus, ça me rappelle une histoire d'ailleurs que je croisais de temps en temps son PDG, notamment lors d'Apple Expo, et il avait l'habitude de dire à la plupart des journalistes qu'il croisait qu'il avait un dossier épais comme ça pour pratique anticoncurrentielle envers Apple et qu'il se réservait le droit de les poursuivre, ce qu'il a finalement fait. On ne sera pas d'ailleurs, je ne pense pas qu'Hibiscus en tire vraiment les profits malheureusement parce que la société a disparu, c'est l'État qui va devoir percevoir cet argent-là, mais en tout cas c'est une amende record, Cédric.
C'est intéressant parce que moi, ça me rappelle, toute proportion gardée, une époque antécédente où quand tu voulais acheter une télé Sony, où que tu ailles, elle était au même prix. C'était curieux, il n'y avait jamais de bataille sur les prix. Jusqu'au jour où un revendeur physique, là, je me souviens, il s'appelait Concurrence, il était Place de la Madeleine, s'est mis à casser les prix et il s'est pris toute la colère de Sony parce qu'en gros, Sony contrôlait les prix de sa distribution. Et si tu te mettais à casser les prix, à solder, etc., bah, il fermait le robinet de tes livraisons. C'est en gros, si j'ai bien compris, ce qui est reproché à Apple, c'est d'avoir voulu maîtriser de bout en bout la distribution et les prix et empêcher toute guerre des tarifs qui aurait fait baisser les marges, etc.
Il y a aussi Ingram et Tech Data qui ont aussi deux gros distributeurs qui ont été également condamnés, mais à moindre échelle, c'est pas en milliards, mais c'est quand même en dizaines de millions d'euros, je crois 70 millions, 80 millions d'euros pour ces distributeurs, donc c'est énorme. Hein.
Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que tu n'as pas le droit de faire du price fixing en France. Tu vois ce que je veux dire? De dire, voilà, c'est le prix auquel. Tu as le droit de dire, c'est le prix auquel je te vends quelque chose, mais tu n'as pas le droit de dire, c'est le prix auquel toi, tu vas le vendre. Tu ne peux pas forcer des marges. Ouais. Toi, moi, je suis toujours étonné quand je vais chez Costco dans le sud de Paris. Bon, là, on risque de ne pas y aller pendant un certain temps. De voir des appareils Apple moins chers qu'ailleurs. Alors, souvent, on joue un peu parce que c'est des trucs plutôt en fin de vie. Quand début, tu vois, c'est pas un iPhone 11 Pro Max. C'est plus des générations précédentes ou juste la boîte. Bref. Mais, donc, il y a des moyens de tirer un peu sur les prix. Mais c'est vrai que depuis toujours, Apple a été dans un contrôle complet de sa distribution. Souviens-toi, bah ouais, tous les APR, les premium resellers, etc. Enfin, c'était, les rapports entre eux et la marque n'étaient pas faciles.
Ah oui, Cédric, ça me rappelle une histoire de quand j'avais souvent des revendeurs au téléphone, puisque du temps de Feu le magazine, notamment SVMA, que j'étais en fréquent rapport avec eux dans ces années-là, notamment parce qu'ils nous prêtaient des machines pour pouvoir les tester, parce qu'on aimait bien SVMA tester toute une gamme plutôt que d'avoir une seule machine comme nous impose aujourd'hui Apple, et ils nous aidaient bien pour ça. Donc on avait tissé des liens un peu particuliers à l'époque avec ce magazine. Et ces revendeurs, ils nous racontaient déjà à l'époque, alors que les Apple Store commençait à peine à ouvrir, qu'ils allaient ouvrir, ou même quelques années plus tard à Écriette, qu'ils étaient déjà un petit peu énervés, voire même en mode panique, parce que les prix qu'ils touchaient pour distribuer ces produits-là, les prix qu'ils payaient pour distribuer des Mac étaient souvent proches du prix public affiché par Apple. J'exagère, mais presque. Il y avait quelques dizaines d'euros ou une centaine d'euros de marge, donc il fallait faire des volumes considérable pour pouvoir vraiment amortir le matériel. Il y avait que les gros qui pouvaient s'en sortir, qui expliquent qu'il y a autant de premium resellers qui est disparu, en tout cas ceux qui étaient installés proches des Apple Store. Beaucoup comptaient effectivement pouvoir se rattraper sur la vente de produits aux entreprises, mais les Apple Store sont aussi positionnés là-dessus. Ils sont montés très agressifs. Donc si vous n'avez pas la possibilité à la fois de vous aligner sur les prix d'Apple et inciter les gens à venir chez vous, et en plus que les entreprises qui étaient vos chouchous, eh bien les Apple Store derrière appellent et vous cassent le marché, ça fait beaucoup pour un seul homme. Oui, Laurent.
Oui, je voulais juste dire, il y avait un autre souci quand même. Hein. Il y avait aussi le souci de l'accès à la vente. C'est-à-dire qu'avant les Apple Store, tous les APR, les resellers, c'était un des canaux privilégiés pour l'acquisition de matériel Apple. Et c'est avec l'arrivée des Apple Store, finalement, qu'ils ont lentement assoiffé pour reprendre le contrôle. Et c'est vrai que c'est une difficulté. Aujourd'hui, on est tous contents, on parle tous des Apple Store et tout ça, mais on oublie que Apple a existé pendant 20 ans grâce à ses revendeurs, quoi. C'est là où c'est la difficulté, quoi. C'est pas l'espèce de reconnaissance du ventre qui aurait dû avoir lieu. Il aurait fallu trouver des accords, et c'est vrai que bon, le pouvoir de la marque, ils l'ont fait au risque de se faire condamner.
Oui, cela montre, je disais, que l'Apple Store a fait du dégât, parce que en dehors des grandes agglomérations, et à Paris notamment, où il y avait de très gros revendeurs, dont Hibiscus notamment, ils ont pratiquement tous revendu ces gros revendeurs. On profite de centres de maintenance, il y a encore des revendeurs, mais ils se spécialisent plus dans des clés de marché, secteur clé de marché, on pense notamment à la vidéo, on pense aux amis à Nice, à Cannes notamment, ou encore à Montpellier, où il y a des Apple Store, mais c'est compliqué de survivre parce que le réflexe, c'est d'aller prioritairement dans des Apple Store. Voilà, et comme je disais, on aurait pu penser à un moment donné qu'ils se partagent le morceau et que l'Apple Store réserve le grand public et que les Apple Premium Resellers et les sociétés, les entreprises privées, et on voit que Apple est très gourmand. Allez, bref, Stéphane, toi de ton côté, quelle attitude tu adoptes? Tu vas directement avec les Apple Store quand tu commandes pour Ioniq 6, ou tu passes avec un revendeur de quartier?
En Apple Store, non, ça dépend. Ça dépend du revendeur aussi.
Pourquoi? Parce que tu as des prix avec un revendeur?
Non, mais l'Apple Store, parfois, ça dépend, c'est du cas par cas, mais bon, c'est vrai que là, j'ai un revendeur qui est plutôt pas mal pour, puisqu'on a des petites réductions. Mais en tout cas, juste, je précise, il y a un pays où encore, et vous ne rigolez pas quand je vais le dire, mais où Apple ne pourra jamais mettre d'Apple Store, c'est en Israël.
Ouais. Bah, pourquoi?
Il y a un contrat qui a été fait avec un truc qui s'appelle iDigital, et il n'y aura jamais d'Apple Store sur la terre d'Israël tant que iDigital existera. Ou
sera racheté un jour par Apple.
Ou voilà, mais en gros, mais bon, c'est comme c'est un petit marché, ils ne se sont pas trop battus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui ont des iPhones et pour par mesure de rétorsion, à chaque fois que les iPhones sortent, en Israël, c'est quelques semaines ou quelques mois plus tard qu'ils arrivent. Voilà.
Allez, assez parlé d'Apple, retour à l'actualité et du coronavirus. Une info, une fake news, je ne sais pas, on va voir, on va en débattre ensemble autour de la possibilité des opérateurs de réduire la bande passante. On utilise beaucoup nos ordinateurs par les temps courts, on en est bien obligé, que ce soit pour du loisir ou pour travailler. Va-t-il y avoir une réduction de la bande passante, info ou intox ? Va-t-on assister à la réduction de la bande passante ? Alors, on a vu de jolis gestes, notamment, je pense, à celui de Canal, qui a annoncé la gratuité de sa chaîne premium sur les box, notamment. Et puis, il y a d'autres opérateurs qui vont se positionner. Alors, on sait que par les temps qui courent, effectivement, comme on est à la maison, on a tendance à tirer énormément sur la bande passante. Alors, on a commencé à avoir pas mal d'inquiétudes, pas mal de news ou fake news qui annonçait une possible réduction de la bande passante. Quelles sont vos analyses, quelles sont vos infos, messieurs, de votre côté, que vous avez pu glaner à droite ou à gauche, malgré le confinement? On commence avec Cédric.
Je pense qu'il doit y avoir des choses un peu tendues sur le mobile, hein, parce que tout à coup, les gens se mettent à travailler de chez eux, donc ils n'ont plus l'infrastructure qu'ils avaient au bureau. Mais pourtant, ils ont probablement encore besoin d'envoyer des fichiers, de recevoir des trucs. Enfin bref, s'ils utilisent leur mobile comme premier point d'accès, ça peut poser souci. Sur le fixe, il y a des soupçons d'endroits où c'est un peu tendu, mais... Et je pense que pour l'instant, ça reste un peu anecdotique. Mais c'est vrai que tout à coup, tu te retrouves avec des gens qui sont à la maison. Un, en train de télétravailler. Deux, avec des enfants qu'on va probablement mettre un peu devant Netflix. Donc ça peut poser des questions. Peut-être dans des régions qui sont un peu sous-fibrées par rapport aux autres. Parce que dans les régions plus fibrées, ça doit être un peu moins tendu. Mais voilà, c'est-à-dire que tout à coup, tu es dans un schéma d'utilisation qui n'est pas le schéma normal de la séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire à la maison d'un côté, le bureau de l'autre, quoi.
Oui, c'est ça, Cédric. Et au-delà, j'ai posé la question à une source auprès d'un grand opérateur, vous le connaissez, hein, c'est un ami commun, de savoir si effectivement il y avait un risque de voir l'infrastructure Internet s'écrouler. Hein. On est tous en train de travailler et isolés. En plus, si ça s'écroule, on peut penser que ça inquiète. De son côté, alors ils travaillent beaucoup, ils sont... sur les dents, voire sur les genoux, mais ils assurent, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Il y a quelques zones, quelques points rouges qui s'allument dans certaines régions, pas du tout dans la capitale. La principale inquiétude, elle est plutôt au niveau du réseau cuivre, hein, le réseau historique de téléphonie, pas forcément sur l'Internet, parce qu'il a vieilli, plutôt mal vieilli, et qu'il n'est pas forcément entretenu, mais bon, passons. Mais pas de problème, il y a quelques soucis d'appel en 4G, mais il y a des solutions alternatives pour passer des coups de fil aujourd'hui, notamment en Wi-Fi. Et puis, accessoirement, j'ai posé la question à cette source, est-ce qu'effectivement, il y avait une réflexion, des scénarios qui sont aujourd'hui dessinés pour le futur en cas d'une forte montée en puissance et qui nécessiterait de la part des opérateurs tout simplement de brider les débits. Il semblerait, d'après cette source, Laurent Stéphane, que ce ne soit pas légal, que les opérateurs ne peuvent pas décider de brider le débit. C'est une décision qui doit être prise par le gouvernement, c'est ça ?
Une injonction de l'État.
Les opérateurs d'eux-mêmes ne peuvent pas le faire.
Non, ça paraît logique, hein. Ça paraît logique, parce que ça fait partie aussi de toute la déréglementation qu'il y avait autour d'Internet, hein, sur le fait de pouvoir privilégier ou pas du contenu. Pour l'instant, ce n'est pas passé de notre côté.
Stéphane, en revanche, ils peuvent choisir de brider certains services de leurs propres services. Orange pour ECS, le cloud, je ne sais pas. Il y a la même chose qui est SFR ou Free ou Bouygues. Hein.
Exactement, donc c'est pour ça que... Les gens pourront continuer à utiliser Netflix, YouTube et Canal+.
Sauf décision de l'État.
Mais heureusement, sinon on sera en dictature.
Oui, c'est sûr. Et puis au-delà, tout simplement, il y a des règles de bonne pratique à adopter. Alors, elles sont assez simples. Quelles sont-elles? Tout d'abord, mais si vous avez autour de vous plutôt une connexion Wi-Fi, utilisez plutôt la connexion Wi-Fi qu'à leur dire les réseaux 4G qui sont vraiment mutualisés entre tout le monde. Donc, privilégiez votre réseau à la maison. Pensez à connecter votre iPhone au Wi-Fi plutôt que le laisser travailler en 4G. Si, comme moi à la maison, vous avez la chance d'avoir un Apple TV ou tout autre système, voire même une box, et qu'elle tourne en en fond sonore et que les enfants regardent un film ou YouTube que sais-je et que vous voulez les faire jouer, faire vaquer un peu autre chose. Et croyez-moi que c'est difficile, mais on y arrive. Hein, Lego, Capla, on essaie pour les plus grands de les faire travailler un petit peu. Et que derrière YouTube continue à tourner, bah, pensez à couper tout simplement votre Apple TV, couper votre box. Ça va soulager à mine de rien, surtout avec la HD, voire la 4K aujourd'hui, énormément les réseaux. Voilà, donc c'est une question de bon sens, il faut faire attention, et puis c'est aussi bon pour la planète, donc autant le faire. Et voilà, donc c'était important de le dire. Voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à me réinstaller dans cette cave qui est un petit peu humide. Moi, je la supporte bien, hein, ces petites doudounes, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous voir, mes amis, même si vous êtes pas très loin de loin, mais on n'a pas très loin de moi, mais on peut pas se parler de vive voix, et c'est un vrai bonheur de vous avoir en vidéoconférence. On n'a pas fini pour cette émission, on continue tout de suite avec la traditionnelle rubrique qui termine, on refait le Mac, à savoir les coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Cédric, si tu en as un, bien sûr.
Je me suis posé la question évidemment de ce qu'il fallait utiliser pour télétravailler au mieux. Il y a plein de gens pour qui ça pose des questions, parce que moi j'ai la chance là d'avoir une pièce dédiée à un petit bureau perso,
ouais.
Mais c'est pas le cas général. Donc
non.
La première question, c'est souvent l'isolation, et puis c'est aussi arriver à jongler. On disait tout à l'heure, tu vois, tu jongles toujours un peu entre ton WhatsApp d'un côté, enfin des outils qui sont à la fois sur le mobile et sur ton ordinateur. Donc il faut des choses multiconnectées. Donc je suis allé chercher ceci. Ça c'est chez Logitech que ça se passe, qui fait des appareils pensés, là pour le coup vraiment pour le travail. Alors celui-ci s'appelle le Zone Wireless. Il n'est pas franchement super super nouveau, hein. Il était sorti il y a déjà un certain temps. Moi j'aime beaucoup les petits boom mics comme ça, parce que ça donne quand même des résultats assez propres. Et surtout, il est livré avec sa petite clé USB qui va te permettre non seulement de connecter directement, pas besoin d'aller dans tes paramètres Bluetooth, etc. Tu la branches sur ton ordinateur, existe aussi en version USB-C. Et tu branches, tu allumes et tu vois, il y a une petite lumière qui s'allume sur l'USB, tu sais que tu es connecté et que ça marche. Ça, c'est déjà une très très bonne nouvelle. Pendant ce temps-là, tu peux le connecter aussi en Bluetooth à ton téléphone, tu fais de la multiconnexion. Il y a une annulation de bruit ambiant. Le son est remarquable, surtout parce qu'il te fait un peu d'isolation, pas seulement de ce que tu entends, mais aussi de ce qu'entendront tes correspondants. Bref. Et alors, dernier raffinement, et alors ça, c'était une vraie surprise en le déballant et en comprenant comment ça fonctionne. Non seulement il se replie sympathiquement, mais une fois que tu l'as replié, et que tu replies l'oreillette qui est ici, cette oreillette-là, je vais rapprocher pour que la caméra essaie de faire un petit peu le point, cette oreillette-là est aussi un port de charge sans fil, Qi. Tu peux le remettre sur ton chargeur, et c'est comme ça que ton casque va se recharger. Tu peux aussi évidemment le recharger en USB-C, mais voilà. Zone Wireless chez Logi, parce que ça ne s'appelle plus Logitech. Si mes souvenirs sont bons, c'est en dessous de 200 €. Bon outil pour les gens qui travaillent.
Merci Cédric. De ton côté, Stéphane, est-ce que tu as un coup de cœur à nous proposer cette semaine?
Oui, Olivier. En fait, c'est un coup de cœur. On en a un petit peu parlé dans l'émission. C'est tout ce qui se passe en ce moment, qui commence à les prémices liées à ce confinement de force qu'on va avoir pendant probablement plus d'une trentaine de jours, où les offres généreuses, solidaires arrivent. Tout le monde
Oui.
essaie de penser à tout le monde, et je trouve ça plutôt pas mal. Et nous, on n'est pas en reste chez Ioni6, parce que bon, bah, on va ouvrir le catalogue de formation.
Accéder aux cours gratuitement.
Bon, bien sûr, les cours non diplômants, mais en tout cas, ils peuvent aboutir à une certification. Et même, on a été jusqu'au bout, on a même fait créer des lingettes nettoyantes pour les mains et pour les surfaces brandées à notre
Tu livres.
Voilà,
en 2 mois, à quoi on va pouvoir se former en dehors des choses naturelles de Yoni sur le coding et tout ça?
Il y aura des petits, bien sûr, il y a du Python qui a accès, bien sûr des matières scientifiques, des matières, beaucoup de business, beaucoup de management, beaucoup de marketing, de l'aéronautique, j'en ai parlé, parce que c'est un des cours qui marche le mieux, la prise de parole en public, la communication par l'écrit, la communication à l'oral, qui est un des cours qui fonctionne le mieux. D'ailleurs, je vous encourage à le regarder. On ne fera plus un email ou un discours de la même façon après avoir regardé cette formation-là, qui me représente à peu près 5 à 6 heures de travail personnel. Et vous allez aller voir, je pense que c'est, au lieu de passer son temps, qui est toujours utile devant les séries, ben, gagner son temps devant des formations, c'est toujours quelque chose d'utile, voilà.
C'est disponible dès maintenant.
Au moment où on enregistre l'émission, on fait les derniers tests techniques pour qu'il n'y ait pas de soucis et de mauvaises surprises pour chacun, parce que quand même, c'est des petites manipulations et du dev, mais au moment où sera diffusée l'émission, il n'y aura aucun souci.
Voilà une belle initiative, Laurent, de ton côté, ton coup de cœur cette semaine.
Alors, il y a un proverbe italien que j'aime beaucoup qui dit « la necessità aguzza l'ingegno », c'est-à-dire grosso modo, quand tu es dans la merde, puis tu dois être ingénieux, hein, dit de façon moins… Et je me suis posé une question, je suis un fervent défenseur de la e-residency estonienne, et je me dis que finalement, quand on réfléchit à ce qu'a fait l'Estonie pour créer des entreprises quasiment virtuelles, ça reste des vraies entreprises avec un numéro de TVA intracommunautaire, mais ça te force, quand tu n'es pas en Estonie, à créer des entreprises qui sont forcément agiles, et dans une configuration telle qu'on vit aujourd'hui où on est enfermé, si toutes les entreprises, encore une fois, de services, hein, je ne parle pas de les restaurants, je ne parle pas de l'industrie ou de l'agriculture, mais toutes les sociétés de services étaient conçues de façon agile, comme finalement on doit le faire quand on crée une entreprise en Estonie, ben, finalement, il y aurait plus de facilité à affronter ce qu'on est en train de vivre. Être un entrepreneur, c'est affronter les difficultés auxquelles on est confronté. Et c'est une bonne façon de penser. Donc, du coup, félicitations.
Les coups de cœur de mon côté. Regardez, on revient à l'actualité plus heureuse d'Apple et les hausses de protection de chez Renault Shield. Alors, ce n'est pas des hausses de protection, c'est des petites protections d'objectifs qu'on met à... au dos de l'iPhone pour protéger ici les jolis objectifs de mon iPhone 11 Pro. Voilà, alors plus que ça peut les protéger, surtout ça peut les embellir, vous avez plein de couleurs différentes. Ça s'appelle les Tempérettes Glace 9H Lens Protecteur de Rhino Shield. Ça vaut quelques euros et je vous les mets de côté, messieurs. Profitez-en, nous sommes arrivés au terme de cette émission dont refait les Mac. Et merci de l'avoir suivi. Merci, messieurs, d'avoir été présents en ces temps difficiles. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir.
Mais surtout, on va s'habituer à faire ça dans les prochaines semaines, dans les mêmes conditions.
Je crois
qu'on n'a pas fini de refaire le Mac et d'arranger, d'embellir cette magnifique cave qu'on nous a mis à notre disposition sous mon domicile. Voilà. Et la personne se reconnaîtra et je la remercie infiniment.
Elle fait une attestation pour y aller.
Et j'ai une attestation pour y aller. Hein. J'ai juste,
non, il passe par les écrans.
J'ai juste à descendre l'escalier sous ma maison. Voilà, on vous souhaite plein de bonnes choses. C'est la fin de cette émission. Il y a plus de 360 émissions en ligne de Refait le Mac, 10 ans de Refait le Mac. Profitez-en pour regarder nos anciennes émissions, regarder nos fous rires, nos bons moments, regarder également nos erreurs, pointer-les du doigt, nos erreurs techniques et les progrès qu'on a pu faire ces dernières années. On en est très fiers. Prenez soin de vous, restez chez vous. On sera là avec vous. On va vous accompagner durant les prochaines semaines qui arrivent parce que là, le confinement n'est pas prêt de s'arrêter malheureusement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On vous embrasse très fort. Et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous les amis sur Skype. Je vous aime très fort. Voilà, je vous embrasse. À la semaine prochaine. Au revoir.